Nous voici, ô Père, tu es présent dans nos vies, tu es présent dans nos vies quand elles sont dans la lumière, tu es présent dans nos ténèbres, et rien ne peut nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté, que tu ne cesses de nous manifester en Jésus-Christ. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous le croyons, nous le savons et nous l'annonçons en ce jour de Pâques. La grâce et la paix nous sont données. Amen. Donc nous allons prendre, vous avez compris qu'aujourd'hui le culte se déroule avec les deux recueils. Le recueil bleu, alors oui, il y a des personnes parmi nous qui n'ont peut-être pas l'habitude. Donc en fait, les spontanés, et je les annoncerai, les spontanés qui ne sont pas affichés se trouvent dans le recueil bleu. Et donc, ça commence à la page 14. C'est la liturgie du temps de Pâques. Donc, nous chanterons d'abord le spontané de la page 14 et après, j'annoncerai les numéros. Et quand c'est un cantique, il est affiché et j'annoncerai également. Et dans ce cas-là, quand c'est un cantique, il se trouve dans le recueil rouge. Voilà. Et donc nous chantons, je vous invite à vous lever pour invoquer le Seigneur avec le spontané page 14 du temps de Pâques. Et je vous invite à rester debout et nous allons laisser Romarie nous conduire dans la louange.
Bonjour. Louons le Seigneur avec un texte du 4e siècle composé d'extraits d'un sermon pour la fête de Pâques de Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople. C'est la Pâque du Seigneur, c'est la Pâque du Seigneur. Redisons-le une troisième fois en l'honneur de la Trinité. C'est la Pâque du Seigneur, c'est la fête des fêtes, la solennité des solennités qui surpasse non seulement la fête humaine, mais même celle du Christ. Comme la lumière du soleil surpasse celle des étoiles. C'est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. Éclatons de lumière et de joie en cette fête et embrassons-nous mutuellement. Hier, attaché à la croix avec le Christ, je suis glorifié, aujourd'hui avec lui. Mourant hier avec lui, aujourd'hui, avec lui je reviens à la vie. Enseveli hier avec lui, aujourd'hui avec lui je ressuscite. Celui qui est aujourd'hui ressuscité des morts, le Christ, me renouvelle aussi moi-même en esprit et me fait revêtir l'homme nouveau. Soyons comme le Christ, puisque le Christ a voulu être comme nous. Devenons Dieu avec lui, puisque aussi bien il est devenu homme pour nous. Il a pris sur lui notre besace pour partager avec nous sa grandeur. Il est devenu pauvre pour nous enrichir par son indigence. Il a pris la forme d'esclave pour nous donner la liberté. Il s'est abaissé pour nous relever. Il a été tenté pour que nous puissions vaincre, méprisé et tué pour notre glorification. Il est monté aux cieux pour y entraîner à sa suite ceux qui gisaient à terre. Il s'est fait tout pour nous afin que nous soyons tout pour lui. Amen.
Et donc je vous propose de prendre dans le recueil rouge le cantique 203. Jésus sort de la tombe. Je vous invite à vous asseoir. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, entre la volonté de Dieu, la prière d'humilité, l'accueil du pardon et après la confession de foi, nous utiliserons la liturgie dans le recueil bleu à partir donc de la page 15. 15, pardon. Mais je le redirai, mais voilà. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, désormais, nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donc donner notre vie pour nos frères et sœurs. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes amis, n'aimons pas en discours, en belles paroles, mais en actes et en vérité. Amen. Spontané. Unissons-nous dans la prière. Et comme prière d'humilité, je vous propose aujourd'hui une prière du pasteur Antoine Nuis, qu'il a intitulée « Prière pour s'encourager ». Seigneur Jésus, tu n'es pas venu réprimander ni condamner, mais encourager, c'est-à-dire sauver. Tu n'es pas venu nous répéter nos manques que nous connaissons parfaitement sans toi. Auprès de toi, nous le savons, il n'y a aucun prix d'excellence, mais de multiples prix d'encouragement. Il nous est facile de nous décourager les uns les autres. Ceux qui croient découragent ceux qui ne croient pas, comme si la foi était une chasse gardée pour les artisans de la vertu et les spécialistes de l'espérance. Mais ceux qui ne croient pas découragent tout autant ceux qui croient, comme si la foi était une insignifiance. Il nous est si facile de nous prendre les uns les autres à la gorge, même sans la serrer, au point de nous asphyxier réciproquement. Dispose-nous à nous encourager les uns les autres. Dispose-nous à encourager les femmes et les hommes, les personnes âgées et les enfants. Dispose-nous à encourager les faibles lorsqu'ils défaillent en solitude et les forts lorsqu'ils assaillent en maladresse. Dispose-nous à encourager même ceux qui nous découragent. Toi qui es le Dieu qui redresse le roseau courbé et qui redresse l'homme épuisé. Toi qui es le Dieu du courage et de l'affrontement. Tu es venu sur terre pour encourager chaque humain en tenant tête aux puissances de la dérision et de l'oppression. Que ton encouragement soit la compagnie de nos courages, vidés au soir du Vendredi Saint, relevé au matin de Pâques. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma fidélité envers toi ne s'éloignera pas et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. Sur la dureté de notre cœur, Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, la joie de notre vie retrouvée. Sur nos humeurs, agressives ou déprimées, la stabilité et la sérénité. Amen. Je vous invite à rester debout pour entendre une confession de foi. Je vous prie de m'excuser pour différents problèmes de clé et de temps. Je n'ai pas eu la possibilité d'imprimer cette confession de foi pour que vous la trouviez comme d'habitude pour la suivre dans les recueils de cantiques. Donc vous allez simplement être invité à l'écouter. C'est une confession de foi qui nous a été donnée à l'Église protestante unie par le pasteur Laurent Gagnebat. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et vers lequel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour, selon la Bible, un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance indicible et invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle, connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen.
Nous allons entendre une révélation progressive en deux parties principales. La première est la découverte du tombeau vide par les femmes venues embaumer le corps de Jésus qui a été déposé dans un tombeau vide le vendredi soir avant la tombée de la nuit. Les femmes ont respecté le repos obligatoire du Shabbat, mais maintenant, nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine, et elles viennent de grand matin. Au IVe siècle, l'évêque Ambroise de Milan les félicitera en disant qu'elles sont les dernières à s'éloigner du tombeau et les premières à y retourner. Cette heure matinale manifeste en effet leur impatience et nous dit par sous-entendu que depuis le vendredi soir, elles n'ont pas arrêté de penser à ce corps abandonné avec une grande tristesse. Au cœur de cette tristesse, l'espoir va monter en puissance à partir d'une série d'incompréhensions et de dévoilements progressifs.
Le premier, on va l'entendre, c'est l'annonce faite par ces hommes en habits éclatants, c'est-à-dire des anges, des envoyés de Dieu. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Dans les premiers siècles du christianisme, ce mot, le vivant, a souvent servi pour désigner Jésus, et avant d'utiliser le poisson comme signe de reconnaissance, certains dessinaient sur le sol la lettre Z. Z pour Zao, vivre, Z pour Zoé, la vie, et surtout Z pour Zonta, le vivant. Nous allons voir que ce témoignage des femmes sera accueilli avec mépris. Un auteur antichrétien du IIe siècle, nommé Cels, leur a même reproché de faire reposer la vérité de leur doctrine sur les faibles épaules de femmes en délire. Luc a bien ajouté que Pierre découvre le tombeau vide et les bandelettes. Donc, la découverte est partiellement confirmée. Mais elle ne suffit pas à provoquer sa confiance. Seulement son étonnement. Il faudra la rencontre d'Emmaüs pour que la confiance revienne réellement.
Nous prions Dieu, avant d'entendre l'Évangile, par ta parole, ô Dieu, parle-nous, pour que nous puissions entendre ton appel et te répondre dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen.
Merci. Le premier jour de la semaine, les femmes vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles, en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. Et elles se souvinrent de ses paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Pierre, cependant, se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé.
Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Que vous êtes stupides ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait.
Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent, « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain.
Je vous propose de vous lever pour chanter avec moi le cantique 283. Alors, il faut le temps de le trouver.
Thank you.
Voilà, l'impensable s'est produit, et les disciples n'ont plus qu'à se disperser, à vaquer à leurs affaires, ou même aller se reposer un peu. Emmaüs, ce village à 60 stades de Jérusalem, probablement environ 11 kilomètres, 2 heures de marche. On ne sait pas très bien où il se trouve, on hésite en fait entre plusieurs possibilités. C'était peut-être une petite ville déjà un peu abandonnée, tranquille à la campagne, ou alors un gros village avec des sources d'eau chaude. Partir, en tout cas, c'est oublier ce rêve et la manière sanglante dont il s'est terminé. Cléopas et son compagnon, ou peut-être même sa compagne, sa femme, parce qu'en fait, il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un couple, même si on n'a pas du tout l'habitude de les imaginer de cette façon, pourquoi pas. Les deux marcheurs, en tout cas, sont très déprimés, et on les comprend, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des proches de Jésus. Ils ne font pas partie des apôtres, pas Cléopas en tout cas, mais ils le connaissent, ils les connaissent, ils connaissent Jésus. Ce sont des disciples, des gens qui commençaient à croire, vraiment à y croire, à penser que oui, Jésus était bien le Messie. Et nous, qui espérions que ce puissant prophète sauverait Israël. Parce que c'est ça, bien sûr, l'attente messianique. Ils voudraient bien retrouver un peu de joie, effacer de leurs yeux l'image du crucifié. Cette image que même de loin, même vue de loin, ils n'arrivent pas à oublier, même s'ils l'ont vue sans trop oser s'approcher. Mais tout en s'éloignant de Jérusalem, de ce lieu tellement important, n'est-ce pas, pour leur foi juive, ce lieu où ils étaient venus fêter la Pâque et qui est devenu, pour eux et pour beaucoup, et pour Jésus bien sûr, un lieu de mort. En partant au plus vite de cette ville, où ils ne se sentent aussi peut-être pas tellement en sécurité, ils sont si découragés qu'ils n'arrivent pas à parler, à penser à autre chose, ni à parler d'autre chose. C'est déjà le 3e jour, et rien ne s'est réalisé comme ils l'espéraient. Et ils ont tellement perdu espoir qu'ils ne font plus attention aux signes, alors que Jésus leur avait appris à regarder les signes. Et pourtant, dans ce qu'ils disent à l'inconnu qui les a abordés, dans ce qu'ils disent eux-mêmes, il y a beaucoup de signes. C'est aujourd'hui le 3e jour. Les femmes n'ont pas trouvé le corps. Des anges ont dit qu'il est vivant. On croyait que c'était des contes de bonnes femmes, mais ceux qui sont allés vérifier ont tout trouvé comme elle l'avait dit. Mais voilà, comme Pierre qui ne comprend pas, et on le comprend, qui ne comprend pas en voyant les bandelettes, eh bien Cléopas ne comprend pas. Il n'entend pas lui-même ce qu'il est en train de dire. Celui qui leur avait appris, qui lui avait appris à déchiffrer les signes est mort. Il ne reste qu'à l'oublier. Et ils sont tellement malheureux qu'au début, ça les rend un peu agressifs, un peu ironiques en tout cas. Mais de quoi se mêle cet inconnu ? Tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Ils sont morts eux aussi, ils sont morts à la foi, à l'espérance, à la vie. Celui pourtant qui marche avec eux est l'espérance même. Mais ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Celui qui marche avec eux est la vie même, mais ils ne le savent pas encore. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous aimons tellement ce récit. Parce que nous, nous savons. Nous lisons ou nous entendons l'histoire de cette rencontre avec une délicieuse attente, presque une sorte de, vous savez, cette espèce de petite appréhension que toutes celles et ceux d'entre nous connaissent, qui ont lu et relu des centaines ou des dizaines au moins de fois un livre aimé. Et dans ce livre aimé, le chapitre préféré, celui où tout se dénoue. Nous étions avec les femmes lorsqu'elles ont découvert le tombeau vide. Et nous, nous savons, nous, déjà, qui est cet inconnu avec lequel Cléopas et son compagnon ou sa compagne commencent par se disputer. et qui s'énerve lui aussi. Décidément, vous ne comprenez rien, comme votre cœur est lent à croire. Et voilà que l'inconnu reprend son enseignement en leur montrant, et avec nous, avec eux, à nous, il nous montre aussi que la foi peut revenir par le cœur. Alors évidemment, quand il leur explique ce qui le concerne dans les Écritures, c'est bien sûr toujours Luc qui parle. Luc qui introduit dans ce récit de révélation progressive une idée déjà présente chez Matthieu, par exemple, une idée qui va devenir, qui est déjà à l'époque, et qui va devenir une notion théologique de toute première importance dans la foi chrétienne. L'idée que la venue de Jésus, son ministère, sa mise à mort et même, peut-être, sa résurrection, tout cela était annoncé dans les Écritures, c'est-à-dire dans les textes de l'Ancien Testament, en commençant, nous dit l'Évangile qu'on vient d'entendre, par Moïse et tous les prophètes. Quand Luc parle des Écritures, il s'agit bien sûr à l'époque de tous ces textes de la Bible hébraïque traduits en grec, ou même de textes écrits directement en grec, ce que notre Bible protestante n'a pas forcément gardé, ou sous le titre, sous le nom d'évangile apocryphe, ou de, pardon, pas d'évangile, de texte apocryphe, qui n'a pas gardé dans son canon, parce que pour l'instant, en tout cas, ils n'appartiennent pas au canon de la Bible hébraïque non plus. Donc il s'agit de tous ces textes qui exprimaient depuis déjà un, voire deux siècles, l'attente messianique, les psaumes et les textes prophétiques en particulier. Bien sûr, ces textes du prophète Ésaïe qu'on appelle les chants du serviteur souffrant. Alors cette interprétation selon laquelle la venue de Jésus était annoncée dans l'Ancien Testament et bien sûr, aujourd'hui, d'une certaine manière, peut être remise en cause. Mais la question reste posée. Si Jésus a été reçu par certains comme le Messie attendu, c'est parce que ces personnes percevaient en lui les signes d'une réponse, une réponse, à cette attente séculaire. Luc parle toujours de signes qu'il faut apprendre à déchiffrer. Et l'inconnu, ici aussi, s'adresse à la fois à l'intelligence des deux marcheurs, mais il commence par leur ouvrir le cœur par sa présence même. En sa présence, voilà que l'accablement dans lequel ils marchaient est moins fort. Quelque chose comme l'espoir réapparaît. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ? Quand il nous parlait en chemin, ces inconnus, cet inconnu qui les a quasiment insultés, comme votre cœur est lent à croire, hein, vous comprenez rien, voilà qu'ils désirent demeurer en sa présence. Et eux ont insisté, reste avec nous, le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. C'est pas la première fois, n'est-ce pas, que je parle de ces expressions qui, dans une traduction ou une autre, ont participé à la construction de notre foi collective et personnelle. Beaucoup de ces expressions nous ont été données par ce très grand écrivain qu'était Luc. Et le verset 29, celui verset, joue un rôle fondamental dans cette situation de reconnaissance progressive. Parce que ces mots, apparemment ordinaires, sont porteurs d'un message sous-entendu. Et quel message ? Le soir approche. Nous sommes dans l'obscurité. Nous ne savons pas qui tu es, mais nous sentons que nous avons besoin de toi. Toi qui es l'espérance, toi qui es la vie, reste avec nous. Et alors, quand le cœur reconnaît, d'une manière ou d'une autre, la présence divine, quand l'intelligence, d'une manière ou d'une autre, parvient à l'accepter, à l'appréhender, à essayer d'en saisir le sens. Tout en nous désire s'ouvrir à cette présence. Notre intelligence, justement, qui recherche le sens des Écritures, parce que dans les Écritures, on trouve, comme je l'ai dit, les signes, pas forcément l'annonce du tout, mais les signes déposés par toutes les générations qui nous ont précédés, les signes de leur recherche de Dieu, cette recherche brûlante que j'appelle la foi. Et même nos yeux peuvent s'ouvrir, nos yeux qui étaient jusque-là empêchés de le reconnaître, empêchés par l'accablement, empêchés de croire par l'absence d'espérance. Cet accablement, vous vous en souvenez, qui au Jardin des Oliviers avait déjà empêché les plus proches disciples de prier. Et bien maintenant que leurs yeux peuvent s'ouvrir, Jésus va leur offrir et il va nous offrir en même temps avec eux, parce que bien sûr vous avez compris que depuis tout à l'heure c'est surtout de nous que je parle, Jésus va nous offrir un dernier signe, celui de sa présence dans le partage du pain et du vin. Alors bien sûr, même si on aime ce récit qui est si important pour notre foi chrétienne, on a le droit et même le devoir de réfléchir. Quand Luc l'écrit, ce récit, ça fait déjà au moins une vingtaine d'années que les premières communautés se réunissent pour partager un repas pendant lequel ce rituel a lieu. La bénédiction et le partage du pain et du vin, avec, dans Luc, le rappel, en tout cas dans l'évangile de Luc, ou l'ajout peut-être par Luc, des paroles attribuées à Jésus pendant la scène, « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, les communautés rassemblées autour de l'évangile de Luc savent tout à fait de quoi il s'agit. Si Luc décide de raconter cet événement, la reconnaissance de la personne de Jésus à Emmaüs au moment précis du partage du pain, s'il décide de le raconter comme il le fait, c'est une manière pour lui de confirmer à ses premiers chrétiens que Christ est bien présent dans le partage du pain, puisque c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que les compagnons d'Emmaüs l'ont reconnu. Alors, nous ne pouvons pas forcément toujours vivre ce partage dans le même état d'esprit. Mais même si nous ne vivons pas ce partage exactement dans le même état d'esprit et pour cause, nous voyons que la rencontre à Emmaüs fait partie des éléments qui nourrissent notre foi et qui, quand même, peuvent nous éclairer parce que c'est un partage sur le sens de ce sacrement où, d'une manière ou d'une autre, Christ est présent parmi nous. Ce qui est surtout important à ce moment de l'histoire, pour les deux disciples comme pour nous, c'est que leur cœur reste brûlant, même quand Christ disparaît de devant eux, même quand ils ne le voient plus. La vision a disparu, mais la présence de Christ en eux, d'une certaine manière, se fait toujours sentir. Maintenant, ils vont pouvoir revivre, et nous allons pouvoir revivre. Nous allons retrouver, à l'instant même, la foi, l'espérance et l'amour, cette foi qui les met debout. Et pendant que ces deux compagnons, nos frères et sœurs, amis à qui nous devons tant, retournent en toute hâte, à l'instant même, donc de nuit pratiquement, en 2 heures, à Jérusalem, pendant qu'ils retournent à Jérusalem, pour participer à l'édification des premières communautés chrétiennes, nous pouvons nous aussi nous remettre en route, retrouver l'espérance et le goût de l'engagement, redevenir, devenir, continuer à être communauté, en demandant à celui qui fait route avec nous de nous conserver un cœur tout brûlant. Amen. Thank you. C'est le moment des annonces, je crois, Vincent. Est-ce qu'il est que tu en as deux ? Et je vous invite à préparer le cantique 294 qu'on chantera pendant la collecte.
Alors bonjour à tous. C'est bon. Alors bonjour à tous. Deux annonces. J'avais déjà demandé pour ceux qui seraient disponibles, donc pour un coup de main ponctuel, donc des fois au foyer de l'âme, sur des petits travaux ou autres. N'hésitez pas à laisser votre adresse mail de façon à ce que je vous envoie un mail à chacun lorsqu'on organise ces travaux donc au foyer de l'âme. C'est toujours bien d'avoir une petite équipe qui peut participer à ce genre de travaux. Alors, autre annonce. Vous me laissez votre adresse mail et donc je vous mets dans une liste que j'ai faite sur mes fichiers volontaires travaux. Voilà, Donc ça permet, d'avoir un petit peu une équipe comme ça sur laquelle on peut compter et je peux donc vous appeler quand on organise donc quelque chose. Voilà. Alors, autre annonce pour ceux qui ne sont pas encore au courant et qui connaissent donc Vincent Hubac, je pense qu'il y en a quand même pas mal. J'ai appris dernièrement que Vincent Hubac allait présider le culte du désert. Donc, ce fameux rassemblement protestant qui se passe donc à Mialet, au Massou-Béran, chaque année, donc grand rassemblement protestant, le premier dimanche du mois de septembre. Donc, c'est Vincent qui va organiser, qui va présider ce culte du désert cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui le connaissent. Donc, et c'est une belle consécration donc, de son ministère, lui qui va partir bientôt à la retraite. Voilà. Dernière nouvelle, pour ceux qui sont gourmands, je pense qu'il y en a beaucoup, il y a toujours des confitures à vendre et du miel aussi, pour ceux qui sont aussi gourmands. Voilà.
Ceux qui ont reçu l'amitié ont peut-être vu qu'il y a deux articles sur l'entraide, l'éditorial, un article de l'animatrice principale de l'entraide, Chantal Le Houerou, d'une manière ou d'une autre, ces articles constituent des appels à l'aide qui sont d'ailleurs complétés à l'aide et à l'adhésion qui sont d'ailleurs complétés par un petit bulletin qui se trouve dans l'amitié. Et donc n'hésitez pas si vous vous sentez concerné à lire ces articles et à répondre à cet appel à l'aide d'une manière ou d'une autre. Ce serait un signe extrêmement positif puisqu'on est dans les signes. Voilà. Il n'y aura pas d'ouverture du temple les deux lundis à midi, contrairement à d'habitude les deux lundis à midi qui viennent parce que je suis en vacances. Mais en revanche, samedi prochain, le 27, le groupe Évangile et Liberté se réunit bien. Et pour ceux qui seraient à Paris, le sujet de réflexion qui a été choisi la dernière fois au dernier groupe d'Évangile et Liberté est la Seine, la Sainte Seine. Je pense que ça peut intéresser même des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de venir à ce groupe et qui seront bien sûr les bienvenus, surtout que si tout va bien, le groupe pourra se réunir au deuxième étage, donc il y aura tout à fait la place pour quelques personnes de plus. Et donc ce groupe se réunit, Évangile et Liberté se réunit le samedi matin, ce samedi matin 27, une fois par mois, de 10h30 à 12h30. Et enfin, le culte dimanche prochain sera présidé et prêché par Denis Guénoun, et j'espère que vous serez nombreux. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir l'entendre. Je serai très heureuse, bien sûr, après de l'écouter ou en tout cas de le lire sur le site, mais j'espère que vous serez nombreux à venir le soutenir et l'écouter. C'est maintenant le moment de l'offrande. Et n'oublions pas que si nous avons besoin de notre Église pour vivre notre foi, notre Église a besoin de nous, de notre présence et de nos dons. Et nous allons donc chanter le cantique 294. Je vous invite à vous lever, pardon. Alors, comme nous le disons à chaque Sainte Cène, mais il y a des nouveaux visages et de toute façon, il n'est jamais inutile de le répéter. Dans l'Église protestante unie de France, il n'y a ni condition ni obligation pour participer au repas du Seigneur. Nous sommes tous invités et ce n'est pas une Église qui invite, ni moi bien sûr. C'est le Seigneur lui-même. Et il n'y a pas non plus d'obligation. On peut tout à fait se joindre au cercle sans prendre le pain et le vin. Et là, vous aurez du jus de raisin pour ceux qui le souhaitent, en passant simplement le plat à son voisin. Maintenant, Seigneur, Père de Jésus-Christ, tout est entre tes mains. Nous avons bien préparé le repas, mais c'est Jésus lui-même qui le préside. La nourriture fortifie notre corps, le vin réjouit notre cœur. Que ce pain nous donne la force qui vient de toi, ce vin, la joie que tu veux pour nous, avec ton pardon et ta paix. Ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer. Par ton esprit, permets-nous de communier à ta présence parmi nous, afin que nous soyons unis au Christ et demeurions unis les uns aux autres. Je vous propose de chanter le cantique 231, et nous allons chanter les deux premières strophes seulement. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Oui, c'est peut-être quand même plus commun.
Thank you.
et le pèlerin embusqués dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos petits sentiers de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs. Présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules, il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde. Il nous donne sa paix pour qu'elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen. Et nous chantons le cantique 205, à toi la gloire. Écoutez l'orgue et je vous souhaite bien sûr de très joyeuses fêtes de Pâques à toutes et à tous.